le seul qui puisse nous donner la force dont nous avons besoin pour pouvoir recevoir cette parole et puis ensuite pour finir par la mettre en pratique. Quel bonheur, Seigneur, de nous avoir attirés à toi. Quelle grâce, quel privilège de pouvoir nous blottir dans tes bras d'amour. En effet, Seigneur, dans tes bras d'amour, nous sommes véritablement en sécurité. S'il y a un lieu, ô Dieu, où nous nous sentons à l'aise, sereins, tranquilles, un lieu, ô Dieu, où nos cœurs sont remplis de paix, sont inondés, de toutes sortes de grâces, c'est bien dans tes bras d'amour. Oh, apprends-nous à apprécier ces moments où nous nous approchons de toi, Seigneur, pour nous abandonner entièrement entre tes mains. Des moments, Seigneur, où nous laissons tout derrière nous. Seigneur, où nous n'avons Dieu que sur toi et sur toi seul. Et où nous ne recevons que ton regard à toi. Oh Dieu, merci pour tout. Nous venons de passer quelques moments merveilleux, ces moments qui nous ont permis, Seigneur, de t'exprimer nos sentiments par des chants, par des cantiques. Nous venons de passer des moments, Seigneur, merveilleux, des moments, ô Dieu, où nous nous sommes prosternés devant toi pour reconnaître en toi le seul, l'unique et le véritable Dieu, celui qui tient nos vies dans ses mains. Oui, nous venons de passer des moments qui nous ont permis, Seigneur, de crier à toi. Ô Dieu, dans nos besoins, quels qu'ils soient, merci pour ton esprit qui nous assiste, qui nous soutient. Seigneur, ton esprit par lequel nous marchions. Aide-nous à développer une grande sensibilité à toi. Seigneur, une grande proximité avec toi. Ô Dieu, afin que nous apprenions en tout et pour tout à être conduits par ton Saint-Esprit. C'est dans la mesure où nous sommes conduits par ton Saint-Esprit, dans la mesure où nos vies sont conformes à ta parole, alors, Seigneur, nous marcherions loin de toutes sortes des œuvres de la chair. Alors nous demeurerons dans la victoire que tu nous as acquise à Golgotha. Alors nos vies seront des vies de plus en plus modelables, façonnables, des vies, Seigneur, des cœurs qui demeureront entre tes mains, pour faire de ces cœurs des vases que tu rempliras de ta grâce. Et puis ensuite que tu utiliseras ces cœurs pour que cette grâce se répande partout. Merci pour tout. Bénis ton serviteur chargé de proclamer ta parole. Ce n'est qu'un être humain, Seigneur, avec ses limites, avec ses faiblesses. Mais cependant, avec toi, nous pouvons tout. Alors assiste-nous, Seigneur, dans la délivrance de ton message. En même temps, touche ton peuple, Seigneur, et rends-le sensible à ta voix, rends-le perméable à ta pensée. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu et nous voulons revenir une fois de plus sur notre thème concernant l'importance, la nécessité d'être, mes amis, de l'argile malléable et modelable entre les mains du Seigneur afin qu'il fasse de nos vies ce qu'il veut, afin que nous imprégnions à demeurer dans sa volonté et à devenir des volontés de Dieu accomplies. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Être malléable, être sensible, demeurer dans ses mains, dans les mains de celui qui se révèle en nous comme étant le divin potier. Donc voilà ce qu'il attend de chacun de nous. Et gloire au Seigneur. Et après ça, nous, comme je l'avais dit, nous prendrons beaucoup de temps pour examiner la nature de la relation qui nous lie au Seigneur, car in fine, l'expérience chrétienne est une expérience relationnelle avec Dieu. La qualité de notre vie en Christ, mes amis, la qualité de tout ce que nous pourrions faire dans le cadre de notre marche avec le Seigneur dépendra de la qualité et de la nature de la relation que nous entretenons avec le Seigneur. Alléluia. Et gloire à Dieu. Être l'argile entre les mains du divin potier, deux points, cas d'Élie. On a donc commencé à examiner la vie d'Élie la fois dernière, et nous avons vu comment, et nous allons continuer aujourd'hui, comment cet homme a été de l'argile entre les mains du Seigneur, argile à laquelle il a donné une forme pour pouvoir être une solution aux problèmes qui se sont posés à cette époque-là, à l'époque du roi Acab. Donc, être l'argile entre les mains du divin potier, cas d'Élie. Nous allons lire le chapitre 17 des 1 Rois. Ça va être une longue lecture, mais ça vaut la peine de la faire. 1 Rois, chapitre 17, nous lisons « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Acab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. » Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel, et alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Mais voici en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Sois sans crainte. Rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Elle alla faire selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui, c'est-à-dire le prophète. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà ce que Dieu peut faire avec une vie qui lui est entièrement soumise. Voilà ce dont Dieu est capable de faire. Lorsque quelqu'un apprend à marcher non pas par la vue, non pas par des suggestions qui viendraient de telle ou telle autre personne, mais quelqu'un qui marcherait selon la parole de Dieu, qui laisserait Dieu le conduire. Quand toutes les conditions sont remplies, croyez-moi, eh bien tout devient possible. Encore une fois, avec Dieu, avec le Dieu de la Bible, avec celui qui un jour nous a attirés à lui pour nous révéler son Fils, avec lui, tout, mais alors tout est possible. Il n'y a rien qui puisse empêcher Dieu, plutôt, il n'y a rien qui puisse être impossible, mes amis, de la part de notre Dieu.
Il a solution à tout.
Voyez-vous?
Solution à tout. Tous les problèmes, quels qu'ils soient, restent solubles aux yeux de Dieu. Élie.
Elia en hébreu. C'est-à-dire Yahweh, l'Éternel, le Seigneur, Adonai, est mon Dieu.
Nous l'avons vu la fois dernière, que cet homme apparaît de manière brusque dans l'histoire biblique, comme il va tout aussi disparaître de manière brusque dans un char de feu. Et pendant ce quelque temps, cet homme va marquer d'une empreinte indélébile l'histoire du peuple de Dieu. Pendant ce temps, cet homme va avoir une influence extraordinaire dans sa génération. Cet homme va être un outil entre les mains du Seigneur. Cet homme va être, mes amis, un vase que Dieu va façonner, un instrument qu'il va modeler, mes amis, et qu'il va utiliser pour sa seule gloire. Et en s'abandonnant entre les mains du Seigneur, en étant une vie sensible, malléable et modelable, eh bien, Dieu va faire de cet homme une solution pour le royaume du Nord. Le royaume du Nord qui était sur une pente plus que dangereuse. Le royaume du Nord, dirigé par Akab, un roi infâme, idolâtre, apostat. Le royaume du Nord qui, dans son égarement, mes amis, s'est trouvé sur une pente et dangereuse qui le conduisait chaque jour qui passait vers la colère, mes amis, vers la ruine. Mais pour arrêter ce peuple dans sa déchéance, pour mettre fin à l'anarchie qui régnait, eh bien Dieu va se trouver un homme. Grâce à cet homme, en tout cas pendant ce temps que nous allons examiner, eh bien Israël va heureusement échapper pour un temps, car plus tard, eh bien, ce peuple va de nouveau retomber dans ses travers, dans l'idolâtrie, dans toutes sortes d'impiétés. Ce peuple va donc se ressaisir et va passer de justesse à côté de la colère et du jugement de Dieu. Élie. Comme nous l'avons vu, son entrée sur la scène biblique, son entrée dans l'histoire de la Bible, nous est relatée de manière laconique. En quelques mots, on ne nous dit pas quelle était sa famille, le nom de ses parents, etc. Eh bien, quand il apparaît, d'abord c'est dans un contexte très très difficile, comme nous l'avons vu, et la parole de Dieu nous dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, il alla et dit au roi Akab, à ce roi païen, à ce roi renégat, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, le Dieu devant qui je me tiens. Cet homme va défier ce roi avec tous les dangers qu'il courait. Car Akab, si vous lisez les chapitres suivants, vous verrez qu'il considérait Élie comme son ennemi. Évidemment, parce qu'Élie est resté attaché à la parole de Dieu, est resté attaché à la révélation selon laquelle il n'y avait qu'un seul Dieu. C'est celui qui s'était révélé à Moïse. C'est celui qui avait libéré Israël et qui l'avait conduit jusque dans la terre promise. Voyez-vous? Cet homme va défier non seulement Akab, il va défier tous ces prophètes des Baal, d'Astarté. Il va défier tout le peuple plus tard sur le mont Carmel. Oui, cet homme aura marqué sa génération. Car le contexte dans lequel cet homme a paru, l'environnement dans lequel il a évolué a été un environnement, un contexte de plus abominable, de plus horrible. Nous l'avons lu la fois dernière au chapitre 16, en quelques verset, eh bien l'auteur sacré nous dresse un portrait, ou plutôt nous donne une sorte de radiographie terrible de ce qu'était le royaume du Nord à cette époque-là. Un tableau plus que sombre, un tableau plus qu'obscur. Les gens ne savaient plus quoi faire. Ils voulaient servir le Seigneur, mais en même temps ils couraient après Baal et toutes sortes de divinités. C'était donc un contexte marqué par un esprit de rébellion, un esprit profane, un contexte marqué par l'anarchie, par la déchéance, par le délitement des valeurs telles que Dieu les avait mises à la disposition du peuple de Dieu. Et cet homme va faire la différence, cet homme va aller à contre-courant, voyez-vous, et c'est ainsi qu'il va prier, et ça c'est Jacques l'apôtre qui nous l'a dit, il va prier pour que la pluie ne tombe point, voyez-vous, et la pluie ne tomba point, en réponse à la prière. Alors ici j'aimerais ouvrir une parenthèse parce que j'ai appris, et ça c'est une bonne chose, je vous encourage, des gens se sont retrouvés en petit groupe à l'église pour essayer de méditer là-dessus. Alors, dans un groupe, quelqu'un ou je ne sais pas qui a essayé de partager sa réflexion en disant Élie, puisqu'il n'est pas dit au verset 17 que c'est Dieu qui l'a envoyé, dont Élie en tant qu'enfant de Dieu a eu le réma, avec sa puissance il a fermé le ciel. Non. Il n'y a rien qui puisse transformer l'homme en un petit Dieu. Rien. Rien. Voyez-vous, ce n'est pas parce que la Bible ne le dit pas que il n'a pas été voir Achab de la part du Seigneur. Dans tout ce récit, vous verrez que c'est le Seigneur qui lui demande d'aller. D'ailleurs, il y a une version qui dit, au verset 2, la parole du Seigneur lui fit d'adresser en ces mots, « Pars d'ici ». Il y a une version qui dit, « Repars ». C'est-à-dire, il avait envoyé pour faire connaître à Achab, eh bien, c'est qu'il allait faire, et puis ensuite, il lui demande de repartir. Élie n'avait pas de puissance par lui-même. C'est Dieu qui agissait par et au travers de lui. Alléluia. Donc, quelle que soit la grandeur de notre foi, et la foi c'est quoi? La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 2, Jésus est l'initiateur et l'accomplisseur de la foi, dont la foi repose entièrement sur lui. Vous ne pouvez pas être plus puissant que celui qui vous donne la foi. Pas du tout. Ah donc, ce n'est pas parce que la Bible ne le dit pas que nous ne pouvons pas déduire que c'était par la volonté de Dieu qu'il est allé voir. C'était sur instruction du Seigneur. D'ailleurs, Jacques nous dit, Élie pria. Vous pensez qu'il est allé prier devant Achab? Hein? Arrivé à Samarie, qui était la capitale du royaume du Nord, entrer et puis voilà, Seigneur, je prie. Il aurait égorgé. Hein? Il a prié. Et puis, il a adressé la prière à qui? Et qui a fermé le ciel? Et donc, ce n'est pas parce que la Bible ne le dit pas qu'il faille déduire. Attention, faites très attention. C'est Dieu qui agit par nous et au travers de nous. Gloire au Seigneur. Si le fait de devenir enfant de Dieu nous octroyer une certaine puissance que nous pourrions utiliser à volonté, une puissance qui serait à notre merci, laissez-moi vous dire une chose. Paul n'aurait pas souffert comme il a souffert. Il a supplié le Seigneur, oui ou non? Vous pensez que lui n'était pas un enfant de Dieu? Vous pensez que lui n'avait pas la puissance de Dieu? Et pourtant il a supplié, « Seigneur, éloigne de moi cette souffrance dans ma chair, dans mon corps. » Il a supplié. Il a demandé. Supplier, ce n'est pas demander en une fois et puis en mettant la main dans la poche et en sifflotant, Seigneur, éloigne la douleur. Il souffrait véritablement. Donc, ce n'était pas un homme surnaturel, c'était un homme comme vous et moi. Il ressentait la même chose comme vous et moi. Mais le Seigneur lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Car ma force se manifeste quand tu es faible. Car lorsqu'on est faible, eh bien, on n'a plus d'autre choix que de s'appuyer sur le Seigneur. Bon, alléluia. Si nous pouvions disposer à volonté et utiliser comme nous voulons la puissance pour fermer le ciel, pour ouvrir le ciel, pour faire tout ce que nous voulons, eh bien, Pierre ne serait pas mort en martyr à Rome, comme il est mort. D'après la tradition, il est mort sur une croix, la tête en bas, c'est une mort atroce, lui aussi, hein. Il aurait pu dire, j'ordonne Il a souffert, c'est dans les larmes. Donc, attention. Même le rhéma que nous recevons ne nous transforme pas en petit Dieu. D'ailleurs, parler du rhéma, ça veut dire, c'est parler d'une dépendance à celui qui nous donne cette parole. Et puis, nous croyons dans cette parole et lui accomplit cette parole. Maintenant, la Bible parle, utilise des termes quand il dit, il n'y aura pas de plus sinon à ma parole. Il faut replacer les choses dans le contexte. Lorsque l'ange Gabriel est allé trouver Zacharie pour lui annoncer la bonne nouvelle, comme quoi lui et sa femme Élisabeth allaient avoir un enfant, qu'il allait lui donner le nom de Jean, Yohanan, c'est-à-dire l'Éternel fait grâce, ou Yahweh fait grâce, eh bien, Zacharie réagit. Hein? Mais comment cela est-ce possible? Nous sommes vieux. Mon épouse et moi, ce n'est plus possible. Qu'est-ce que l'ange va lui dire? Eh bien, puisque tu n'as pas cru à mes paroles, il faut bien lire la Bible. C'est pourquoi chaque année, nous vous encourageons à lire la Bible entièrement. Et vous allez comprendre. Mais, étaient-ce les paroles de Gabriel? Oui, dans le sens où celui qui lui apporte. D'ailleurs, il dit lui-même, « Moi, je me tiens devant le Seigneur. Il m'a envoyé. » Et puisque tu n'as pas cru à mes paroles, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas perdre l'usage de la parole. Donc, voilà, je referme la parenthèse. Et donc, si vous avez des questions, au lieu de perturber la foi des gens, vous pouvez revenir vers nous. Alors, vous tournez vers des pasteurs. Mais sinon, je vous encourage de vous retrouver en petit groupe pour pouvoir échanger. Donc là, même si la Bible ne le dit pas, Élie habitait Tishbé. Il faut savoir que Tishbé, c'est en Galade, donc c'est de l'autre côté du Jourdain, et le roi était à Samarie, donc de l'autre côté, c'est-à-dire vers l'ouest. Et donc, il a quitté Tishbé, il a traversé le Jourdain pour aller à Samarie. Voilà. Et puis ensuite, et l'histoire, il parle en camp. Il dit, pourquoi Dieu ne pouvait-il pas fermer le ciel pendant que Élie avait prié avant d'aller voir Acab? Je vous pose la question. Dieu pouvait-il le faire? Ah, si. Il n'avait pas besoin qu'Élie aille devant le roi. Il pouvait le faire. Et même pour ouvrir les cieux, au chapitre 18, verset 1er, 1 et 2, il lui dit, l'Éternel lui parla de nouveau. « Va voir Acab et dis-lui que je vais envoyer la pluie. » Pourquoi? Voilà pourquoi je me suis permis de passer un tout petit peu de temps avec vous pour examiner le contexte. Il faut savoir que dans le royaume du Nord, Baal était élevé au rang des divinités officielles. Donc, les gens adoraient Baal. Et qui était Baal? Baal était considéré comme étant le dieu de la fertilité et de la pluie. Écoutez bien. Et donc, tous ces gens, quand il pleuvait dans le royaume du Nord, dans l'heure d'échéance, pensaient que la pluie qui tombait, comme elle est tombée il y a quelques heures, comme hier la nuit et aussi ce matin, eh bien, ils pensaient que c'est Baal qui envoie la pluie. Donc, c'était le dieu de la fertilité. C'est grâce à Baal que la terre était fertile. C'est grâce à Baal que la pluie tombait. Vous comprenez, mais pourquoi il l'a envoyé? Il était donc important qu'Acab sache qu'il y a un seul qui a le pouvoir d'envoyer la pluie, qu'il y a un seul qui peut fermer le ciel et envoyer la sécheresse. C'est pourquoi il fallait qu'Acab entende ça. Voilà. Il lui a dit, mais non, il ne va plus pleuvoir. Si Acab n'avait pas reçu ce message de la part d'Élie, il aurait pu croire que c'est une sécheresse normale. Oui ou non? Eh bien voilà, il aurait passé toutes ces années à sacrifier au Baal, à pleurer devant Baal. Il aurait mobilisé des cohortes de prophètes de Baal pour invoquer Baal, comme ça va se passer sur le mont Carmel, afin que Baal agisse. Mais Baal n'aurait jamais agi. Voilà. Et puis au bout de 3 ans, Le Seigneur lui dit, va de nouveau le revoir. Et dis-lui, je vais envoyer la pluie. Et il fallait qu'il sache qu'il est celui qui ouvre. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Voilà. Donc il fallait confondre Baal. Trouver un câble, ce n'était qu'une vanité, ce n'était qu'une idole. Que Baal n'avait aucun pouvoir. Mais aussi, il fallait confondre les prophètes. Et c'est ce qu'il va faire plus tard sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal. Peut-être que les prophètes d'Astarté, parce qu'il y avait 450 de Baal, et combien d'Astarté? 400. Mais au mont Carmel, nous n'allons trouver que les prophètes de Baal. Peut-être que les autres avaient hésité ou ils avaient d'autres occupations. Mais enfin, bref, donc voilà la raison. Dieu aurait pu agir. Il n'aurait pas eu besoin que l'homme parte de Tishbé, un long voyage, traverser le Jourdain, aller jusqu'à Samarie, qui était bâtie sur une montagne. Voyez-vous? Non. C'est que Dieu est capable de tout. Mais il fallait que le message passe. Il fallait que le roi, à commencer par le roi, et puis sa femme, l'infâme Jézabel, et aussi le peuple, sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu qui s'était révélé à Moïse. C'est le seul qui a la maîtrise de tous les éléments naturels. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Acclamons son nom. Donc voilà. Un contexte d'anarchie spirituelle, un contexte de déchéance morale, de délitement des valeurs spirituelles, des valeurs morales, et tout était prêt pour qu'Israël boive le calice de la colère de Dieu jusqu'à sa lie. Mais comme il est amour, sa colère dure un temps, mais sa bienveillance toute la vie. Ça, c'est un Dieu formidable. Voyez-vous, il va chercher quelqu'un qu'il puisse utiliser pour amener le peuple à la raison. Utiliser quelqu'un pour élever les défis qui se présentent à Israël. Et Dieu va chercher, oh alléluia, au milieu de ce peuple qui n'arrêtait pas de blasphémer, au milieu de cette déchéance, Dieu a cherché et il va trouver l'homme, oh alléluia. Il n'a pas trouvé cet homme parmi le clergé en Jérusalem, hein? Parmi les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, non. Il n'a pas trouvé cet homme dans une école rabbinique. Il n'a pas trouvé cet homme dans une faculté de théologie. Dieu est parti, a traversé, a fait le tour d'Israël. Il a traversé le Jourdain. Il est parti à l'est, en Galade. Et là, dans une petite ville, Tishbé, il va trouver l'homme. Et cet homme lui-même dira à l'Éternel devant qui je me tiens. Donc ça veut dire qu'il a trouvé cet homme dans sa présence. Encore une fois, mes amis, Dieu veut que nous demeurions cette argile entre sa main, que nous demeurions dans sa présence pour qu'il façonne nos vies. Dieu est à l'œuvre autour de nous, comme nous allons le voir très rapidement. Et il veut rencontrer les différents besoins autour de nous. Dieu est à l'œuvre. Dieu est au travail. Dieu nous précède toujours. Le spirituel a toujours une longueur d'avance sur le temporel. Nous nous attendons que le jour J arrive pour qu'enfin nous voyons ce qui se passe ce jour-là. Nous voyons les différents événements se dérouler ce jour-là pour que nous fassions ce que nous serions amenés à faire. Mais pour Dieu, mes amis, tout est déjà fait. Il connaît même la fin de l'histoire de l'humanité. Lisez le livre de l'Apocalypse. Tout est écrit. La dernière page de l'histoire est déjà écrite. Mais pour nous, nous sommes dans le temps. Nous voyons que l'histoire est en train de s'écrire. Mais pour Dieu, il n'est pas du tout surpris. Il sait quelle sera l'issue de l'histoire de l'humanité. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un a dit à juste titre, et j'aime beaucoup cette citation, et c'est vrai. Il dit, les grands événements, quels qu'ils soient, sont toujours précédés par leur ombre. Oh, alléluia. Voyez-vous, Quand le soleil est derrière, vous êtes là, l'ombre est devant vous. L'ombre vous a déjà précédé, n'est-ce pas? Effectivement, c'est l'histoire que nous allons examiner très rapidement aujourd'hui. La parole de Dieu est de nouveau adressée à l'homme. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Eh bien, pars d'ici. Dirige-toi vers l'est. J'aurais pu projeter la carte comme ça pour que vous ayez une idée. Voilà. Il était à Samarie, donc dans le royaume du Nord. Il lui dit, pars. Et donc, il repart, il retraverse le Jourdain pour aller au torrent de Kérit, qui était certainement un affluent de la rive gauche du Jourdain, puisque le Jourdain descend. Donc, de la mer de Galilée, il descend et il se jette dans la mer morte. Et donc, cet affluent, le Kérit, se trouvait à l'est du Jourdain, sur la rive gauche. Et Tishbé n'était pas loin. Va à Kérit, au torrent de Kérit. Et le voilà qui quitte Samarie, qui entame un long voyage pour aller à ce torrent-là. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Cache-toi près du torrent, évidemment, parce que le roi le cherchait. Celui qui jette le trouble en Israël. D'ailleurs, il lui dira, quand Dieu va de nouveau lui dire, écoute, va voir Akab, dis-lui que je vais envoyer la pluie. Eh bien, Akab, lui aussi, était à sa recherche. En même temps, il recherchait un coin où il pourrait trouver de l'herbe pour nourrir ses chevaux, les animaux, etc. Oui. Va, cache-toi. L'homme obéit. Voilà une vie sensible. Alléluia. Voilà une vie entre les mains du Seigneur. Alors il lui dit, tu boiras de l'eau du torrent. Évidemment, il avait besoin de boire. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, pas ailleurs. De te nourrir là où moi je t'envoie. Alléluia. J'ai ordonné. Et plus tard, lorsque le torrent s'assèche, de nouveau Dieu lui parle. Que lui dit-il? Il dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, restez-y. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Regardez. Va te cacher au torrent du Kérit. L'homme quitte Samarie, où il avait rencontré le roi, où il lui avait dit qu'il ne pleuvra plus, effectivement. Après sa prière, c'était fini. Il traverse le Jourdain, il va au torrent de Kérit. Et il y reste selon la parole de Dieu. Il ne s'agite pas. Dieu avait été très clair. Tu vas boire de l'eau du torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Attardons-nous un tout petit peu là-dessus. J'ai ordonné. C'est le passé composé, oui ou non? Donc, Dieu parle au passé. Dieu a déjà agi. Alléluia. J'ai ordonné. Plus tard, quand tu lui demandes d'aller à Sarepta, eh bien Sarepta c'est sur la côte méditerranéenne. Hein, si vous avez un tout petit peu l'image de la géographie du Proche-Orient, c'est sur le littoral méditerranéen, sur la côte méditerranéenne, entre la ville de Sidon et de Tyre. Et donc, du torrent de Kérit, il retraverse, c'est un long parcours, hein, il retraverse le Jourdain, il va remonter. Et donc, il va aller, Samarie au sud, vers le nord, et là, chez une veuve. Là, Dieu aussi lui dit, j'ai ordonné. Alléluia. J'ai ordonné. Mes amis, Dieu travaille autour de nous. Dieu n'est pas du tout surpris. C'est à nous de rester entre ses mains. C'est à nous de nous laisser conduire. Voyez-vous? Alors, il nous conduira là où il nous aura déjà précédé, là où il sera en train de travailler. Donc la volonté de Dieu et ce que nous demeurions en lui, afin que lui nous conduise. Qui sait là où Dieu est en train de travailler, si ce n'est Dieu lui-même? Voyez-vous? Il n'y a que lui, mes amis. C'est là que nous devons apprendre. Et c'est là que nous passerons beaucoup de temps pour examiner la relation qui nous lie à notre Seigneur. Voyez-vous, car tout dépend de ça. Être entre ses mains. Et puis il nous donne la forme.
C'est ce qu'Élie a été. Élie pouvait-il s'imaginer que Dieu, au-delà de Samarie, était déjà à l'œuvre?
Il avait déjà préparé les circonstances. Il avait déjà ordonné au corbeau. Élie pouvait-il s'imaginer que pendant qu'il y avait la famine, Dieu était en train de travailler au-delà de Samarie, au-delà de Galade, là vers Sidon, vers Tyr, dans une petite ville de Sarepta? Voyez-vous, Dieu travaillait.
Ce qu'il a fait, il a simplement utilisé son serviteur pour l'amener là où lui était déjà en train d'œuvrer.
Pour venir en aide à une veuve, Dieu savait, mes amis, comment bénir cette veuve. Dieu savait comment prendre soin de son serviteur.
Élie ne s'est pas agité. Il s'est laissé simplement porter par la parole. Oh, alléluia, j'ai ordonné. Nous sommes ici, nous sommes le dimanche 22. Nous savons que demain, c'est le 23. Aujourd'hui, nous avons peut-être prévu des choses après le culte. Nous avons un planning bien établi. Voilà, nous allons faire ceci. Les choses sont un tout petit peu claires. Nous avons un tout petit peu une idée quant à la manière dont la semaine va se dérouler, puisque nous avons quelques rendez-vous, puisque nous avons fait ceci, mais sans plus. Tout est sur papier. Parce qu'il n'y a rien qui nous garantit que les choses se passeraient comme nous l'avons prévu. Il n'y a rien. Mais Dieu sait. Dieu sait. Il sait. Il connaît toutes choses. Avant d'envoyer Élie au torrent du Kérit, le Seigneur l'avait déjà précédé. Ces corbeaux pouvaient-ils s'imaginer qu'ils n'étaient que des simples outils entre les mains du Seigneur pour prendre soin de son serviteur? Voyez-vous, laissons-nous conduire. Il n'a pas envoyé Élie quelque part où il y avait encore, parce qu'en remontant vers la Syrie, vers le nord, il n'y a rien qui indique que la sécheresse avait frappé au-delà, il aurait pu trouver quelque chose. Mais il est resté dans cette terre-là pour prendre soin de son serviteur. Alléluia. Élie est un serviteur modèle dont la vie est restée entre les mains du Seigneur. Et comme sa vie était entre les mains du Seigneur, et comme cet homme avait une grande intimité avec Dieu, Dieu a travaillé, Dieu l'a préparé, Dieu lui a donné la forme qu'il voulait pour qu'Élie devienne une solution pour les autres. Mes amis, si on a compris ça, alors il n'y a plus de place à l'opportunisme. Si on a compris ça, alors on ne marche pas comme tout le monde marche. Parce que toutes les églises font ça, moi aussi je vais le faire. Puisqu'on ouvre des extensions partout, moi aussi je me lève, je vais ouvrir l'extension par là. Et comme quelqu'un m'a dit, c'est comme si je parle de la borne. Il y a comme une concurrence. Chaque église de la borne voudrait absolument avoir des extensions partout. Au point où un frère m'a vu en semaine ici, c'était le mardi, hein? Mardi ou mercredi, un jeune frère, il est venu, il était un tout petit peu perturbé. Il dit, mais pasteur, je ne comprends pas. J'habite à Maman Mobutu. Et sur ma rue ou sur mon avenue, il y a deux la borne. Vous trouvez ça normal? L'opportunisme. On veut vivre grâce au ministère. Non. Dieu n'a pas créé de ministère pour répondre aux problèmes de chômage. Hein? Voyez.
Vous pouvez très bien servir le Seigneur tout en ayant votre travail.
Il est là à ma droite. Il nous a bénis, c'était le vendredi 13. Il est là, je le connais depuis très longtemps. Et je peux vous assurer, si c'était quelqu'un d'autre, il y a très longtemps, il aurait exigé qu'on me reconnaisse comme pasteur. Mais évidemment, comme il m'a dit lui-même, il va prêcher à gauche, à droite, on l'appelle pasteur et tout ça. Il est professeur d'université, mais il prêche la parole.
L'opportunisme. Je vais ouvrir une extension. Alors, le garçon était perdu. Vous voyez, ce n'est pas seulement ça. C'est qu'il y a un problème. Il y a un souci. Le pays est vaste. Il y a des coins où il n'y a pas de témoignage de Pentecôte. Allez là-bas. Allez au torrent de Kérit. Vous ne savez pas comment vous allez vivre. Mais si c'est Dieu qui vous envoie, il vous a déjà précédé. Il va utiliser les corbeaux pour vous nourrir. Regardez, là, au torrent de Kérit, eh bien, l'homme de Dieu ne pouvait pas avoir un planning en disant, bon, demain j'irai au restaurant, je vais faire ceci. Non, il dépendait entièrement des corbeaux. Et au-delà des corbeaux, du Seigneur lui-même. Le matin, ils étaient là au rendez-vous. Ils lui apportaient ce dont il avait besoin. L'homme mangeait à sa faim. Et puis le soir, il revenait. Oh, alléluia. Et donc, c'est comme ça. Il y a un temps où nous n'avons rien que d'attendre. Comme Israël, au désert, Dieu a envoyé la manne, Dieu a envoyé les cailles. Mais quand ils sont arrivés dans la terre promise, il fallait qu'ils travaillent et qu'ils mangent le produit de leur travail. Vous voyez? Ils ne pouvaient pas se comporter dans la terre promise comme s'ils étaient encore au désert, ne rien faire en disant, écoutez, tournez le pot, Seigneur, nous attendons la manne et les cailles, ils seraient tous morts de faim. Il y a un temps pour tout. J'ai ordonné. Il est allé. Et puis, le torrent est à sec. Il ne s'est pas agité. Il ne s'est pas agité. Il n'a pas cherché à jeûner pour que Dieu lui montre là où il devait aller. Vous savez, il y a des choses. Aujourd'hui, nous considérons le jeûne comme quelque chose de magique. Voilà, on doit jeûner. Non ! Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie présentement ? C'est ça le plus important. Il veut peut-être te conduire, te restaurer dans un domaine où tu as beaucoup de faiblesses. Alors jeûne par rapport à ça. Donne l'occasion au Seigneur de te travailler. Qu'est-ce que Dieu est-il en train de faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu est-il en train de faire autour de nous? Peut-être qu'il est en train d'agir dans une direction. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de préparer les gens à la repentance. Et il cherche quelqu'un à envoyer là-bas, non pas avec un message pour construire des hôtels, mais plutôt pour aller prêcher la repentance afin que les gens se convertissent. De l'autre côté, il est peut-être en train de restaurer l'Église avec un enseignement particulier. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est la question la plus importante. Qu'est-il en train de faire dans ma vie? Qu'est-il en train de faire pour ma vie? Qu'est-ce qu'il veut faire à travers ma vie? Où est-il en train de travailler? Nous verrons ça, mes amis. Le Seigneur a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous, eh bien, il nous a envoyé. Et il reste notre modèle. Nous ne pouvons pas aller plus loin si nous ne nous inspirons pas de la manière dont lui a marché, a vécu lorsqu'il est venu sur terre. Que nous dit-il? Nous reviendrons là-dessus. Il dit, mon Père travaille encore. Ah! Et moi aussi, je ne peux rien faire. Je fais ce que je vois auprès de... C'est tout. Si lui qui a été envoyé par le Père ne pouvait rien faire, que de, si vous voulez, de reproduire ce que le Père était en train de faire, eh bien, à combien plus forte raison, nous qu'il envoie, à qui il a donné une mission, ne devrions-nous pas tout faire pour rester cette argile entre ses mains, afin qu'il nous modèle, il nous aide à comprendre ce qu'il est en train de faire. Il est parti au torrent de Kérit, Élie. Dieu était en train de travailler au niveau des oiseaux. Alléluia. Il a préparé les corbeaux. Il a pouvoir sur tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a rien qui puisse échapper à son contrôle. Et puis, les corbeaux ont pris soin de son serviteur. Le torrent sec, le Seigneur revient de nouveau. Il lui donne une parole. Il dit, va à Sarepta. C'est une trotte, hein, comme je vous ai dit. Hein. Il doit quitter Kérit, traverser le Jourdain, remonter jusque sur la côte méditerranéenne, dans la ville de Sarepta, chez une veuve. Vous vous rendez compte? Voyez-vous? Nous, on se serait attendu que le Seigneur l'amène ou l'envoie chez un riche de la ville, chez un commerçant. Vous voyez? Comme ça, le commerçant, avec ses moyens, aurait pris soin de lui. Comment Dieu peut-il l'envoyer dans un contexte de sécheresse? Dans un contexte de crise? Comment Dieu peut-il l'envoyer chez une veuve? Eh bien, Dieu travaillait déjà là à Sarepta. Il a vu. Il a eu compassion de cette femme. Comment allait-il répondre aux besoins de cette femme? Il fallait trouver quelqu'un pour être la réponse au problème de la femme. Il a trouvé, une fois de plus, cet homme-là dans sa présence. Et il a utilisé. Va. L'homme a obéi. C'est ça la foi. L'obéissance à la parole. Nous sommes ses serviteurs. Ce n'est pas à nous de dire au Seigneur, non. Moi, je dois aller à Kisangani. Toi, tu me demandes d'aller je ne sais où à Inongo. Comment mes enfants vont étudier? Qu'est-ce que je vais faire à Inongo? C'est pauvre. Comme un pasteur m'avait dit, mais pasteur, nous sommes dans un coin où il n'y a pas d'argent. Il dit, alors toi, tu aurais aimé aller là où il y a l'argent? Les gens ne gagnent pas beaucoup et tout ça. Vous voyez, mes amis. C'est ce qui explique qu'il y a une concentration d'églises à Kinshasa. Sur la même rue, vous pouvez en trouver 10. Et maintenant, c'est la concurrence. Et cette façon d'agir crée des tensions inutiles. Voyez-vous? Et au point où certains pasteurs ne se parlent plus. Voyez? Même certaines de nos extensions ici, j'ai appris. Quelqu'un qui est parti d'ici, il a commencé une extension au nom de la borne. Et puis il revient, pas loin d'ici, il ouvre une extension. Vous trouvez normal? Qu'est-ce qu'on cherche? Avec ça, nous allons publier la liste prochainement. Des vraies extensions. Très bien. Parce qu'avec ça, on part avec la borne, le nom de la borne. Au lieu de travailler, au lieu d'évangéliser, non, on utilise l'enseigne et la borne. Ça, c'est facile, hein. Je veux dire une chose. Même un démon aujourd'hui qui s'élèverait, qui ouvrirait une officine religieuse en mettant le nom de la borne, les gens seraient attirés. Parce que beaucoup de gens, c'est la borne. Oui, évidemment, c'est le respect de l'heure, c'est la parole, c'est l'enseignement, c'est le sérieux, etc. Les gens sont attirés. Mon frère, ma sœur, travaille. Paye le prix. Va évangéliser. Fais le porte-à-porte, nous on l'a fait. Où est-ce qu'on n'a pas été? Où est-ce qu'on n'a pas été? Non, aujourd'hui, je suis pasteur, je vais à l'école biblique, et puis je commence à regarder par la vue. Est-ce qu'il n'y a pas d'église ici? Ou alors on revient vers moi, pasteur, j'ai vu un hangar. N'importe qui peut voir un hangar. Ah, je voudrais démarrer une église là-bas. Voyez, soyons sérieux. Heureusement, Dieu est bon. Puisque les gens le font en son nom, quelquefois il agit. Non pas parce que c'est nous qui avons récupéré ces hangars, l'avons modernisé, et puis les gens commencent à venir. Non, c'est tout simplement parce que son nom est invoqué. Parce que c'est sa parole qu'il y est prêchée. Et par amour pour ses brebis, il les attire. Non pas parce qu'il est d'accord avec nous. Élie va partir à Sarepta. Et je termine par là. Nous reviendrons là, la fin prochaine. Imaginez-vous ce matin-là. Quelle heure était-il? On n'en sait rien. Toujours est-il que cette femme est sortie.
Elle est allée à la porte de la ville pour aller chercher un peu de bois. Elle avait un pot de farine, avec un peu de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Elle était veuve. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. Et donc, elle avait son enfant. Et elle voyait la mort approcher. C'était la sécheresse partout. Voyez, donc, il n'y avait personne pour pouvoir la soutenir. C'est comme ça qu'elle dira au prophète, écoutez, nous n'avons pas grand-chose. Il nous reste simplement un peu de farine, un peu d'huile. Nous allons préparer quelque chose. Nous allons manger, mon fils et moi, mon enfant et moi, nous allons mourir. Voyez-vous, ces jours-là, pouvait-il s'imaginer, eh bien, que ce jour-là allait être un jour qui allait bouleverser toute sa vie. Ce jour-là, alors qu'elle ramassait, le prophète s'approche d'elle, la salue, et puis lui présente son besoin. Ce matin-là, comme je disais, cette femme est sortie par habitude. Elle avait peut-être ses habitudes, voilà, tous les lundis, je dois chercher un peu de bois, et tout ça. Mais elle ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait une main invisible qui conduisait toutes choses. Voyez ? Une main invisible qui agissait. Cette main avait déjà précédé Élie. Oh, alléluia. Élie s'est laissé guider par la parole de Dieu. Il est allé là où Dieu était en train déjà de travailler, de préparer les circonstances. Voyez-vous ? Et quand il arrive, eh bien, les choses vont se passer de manière extraordinaire. C'est ainsi qu'il va dire, ainsi par l'Éternel, prépare-moi d'abord, et puis voilà ce que Dieu dit, tu auras de la farine jusqu'à ce que la pluie revienne. Tu auras de l'huile jusqu'à ce que la pluie revienne. Et Dieu va accomplir cette parole. Le pot de farine ne s'épuisa pas, la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Il va rester chez cette dame. Ça ne va pas s'arrêter là. L'enfant de la dame va mourir. Mais Élie est là où Dieu le voulait. Quand tu es là, tout devient possible. C'est tout. Il était là. Il savait que Dieu était là. Et puisque Dieu est là, il est capable de ressusciter des morts. Puisque Dieu est là, il peut faire marcher les paralytiques. Puisque Dieu est là, il peut ouvrir les portes. Il a simplement pris l'enfant. Il est remonté dans la chambre haute. Il a couché sur son lit. Il a imploré la grâce de Dieu. Il a crié au Seigneur. Résultat, l'enfant est ressuscité. Oh, alléluia. Élie a été une solution pour cette veuve. Solution économique. Voyez-vous? Solution spirituelle, parce que ça a été un encouragement. Maintenant, je vois que tu es le serviteur de l'Éternel. Oh, alléluia. Son fils est revenu à la vie parce que Élie était là. Mes amis, que nos vies restent entre les mains du Seigneur. Que Dieu les prépare. Alors, en nous laissant conduire par lui, il nous dirigera là où il est déjà. Son ombre nous aura déjà précédés. Et quand nous arriverons, eh bien, nous n'aurons pas à nous agiter. Un jour à la fois. Le problème, c'est que nous voulons connaître tout à l'avance. Qu'est-ce qui va nous arriver? On va tourner à gauche, on va tourner à droite, on sera où, etc. Ce n'est pas notre problème. Le Seigneur a dit, celui qui me sert, eh bien, qu'il me suive. Et là où je suis, là sera mon... Tant que je sais que lui est avec moi, eh bien, tout devient possible. Même s'il faut faire partie quelqu'un d'un bougimaï pour m'apporter à manger, il le fera. Tout est possible. Mais quand on est en dehors de sa volonté, on a beau crier. On devient comme les prophètes de Baal. Hein. On se fait des incisions, on jeûne, on prophétise rien. Parce que Dieu ne travaille pas là-bas. Il est de ce côté-là. Eh bien, tant que nous n'aurons pas été là-bas, rien ne se passera. Nous pourrions aller de l'autre côté. Certes, il pourra honorer sa parole, mais pas plus que ça. Nous allons nous agiter. À un moment, nous déprimons. Voilà. Et après, il n'y a plus rien. On commence à manipuler les gens avec des prophéties et des visions. On n'a plus rien à donner. Dieu m'a dit, comme les gens aiment ça, et oui, on attire les gens. Vous venez, tiens, donnez, construisez tel hôtel, et puis tel autre hôtel. Je ne sais pas combien de fois les gens construisent. Tout ça, c'est quoi? Rien. Sois là où Dieu te veut. Reste de l'argile malléable entre ses mains. Alors là, il va te façonner. Et il va t'amener là où il travaille. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ces quelques vérités. Merci pour Élie. Cet homme, Seigneur, a vécu des choses extraordinaires avec toi. Cet homme a marché par la foi. Cet homme a eu une consécration extraordinaire envers toi. Et sa vie a marqué son temps, Seigneur. Et nous voulons, ô Dieu, à notre tour, être des outils entre tes mains, pour être des solutions dans ce contexte de déchéance, Seigneur, de déchéance morale, dans ce contexte d'anarchie spirituelle, être de lumière qui brille, être le sel de la terre qui lutte contre la corruption. Et pour cela, nous avons besoin de demeurer entre tes mains. Nous avons besoin de te laisser, toi, Seigneur, diriger nos vies. Oui, je laisse toi l'œuvre en nous et à travers nous. Merci pour tout. Merci aussi de bénir, Seigneur, les deux paniers. Ô Dieu, pour les offrandes, mais également pour la construction du temple.